Mercredi 20 septembre 2023, il sonne 11h. Nous sommes en studio ici, les techniciens également en place et nous vous adressons nos salutations cordiales. Vous, les auditrices et auditeurs du Club La Presse sur Canal FM dans Lomé et ses environs, mais également toute la chaîne de radio partenaires d'Anejo à Dapan, en passant par Atakpame, Sokode, Bassar et Baga, Nyamtougou. Cette chaîne mondiale qui irrigue l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Asie, avec tous les médias partenaires par lesquels vous êtes en communion avec nous. Nous vous saluons. La complicité techniquement positive de Vitogbe Kokou Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous parlons naturellement de santé, le marché du bien-être de la santé qui vient de fermer ses portes. Nous allons revisiter quelques activités et puis l'apparition de santé et éducation aujourd'hui. Et puis la question numéro 1 en ce début de semaine, c'est est-ce que nous allons trouver le carburant avec des prix qui n'ont pas changé? Est-ce que la situation a commencé à se normaliser depuis aujourd'hui? Nous allons revisiter tout cela. Dans quelques jours, ce sont nos petits frères, nos petites sœurs, nos petites filles, nos enfants qui vont retourner à l'école. Quel visage nous présente l'année scolaire 2023-2024? Et puis, nous allons faire un petit tour sur le plan de la diplomatie internationale. Les Nations Unies qui tiennent leur 78e Assemblée nationale, pendant que dans la sous-région, ça bouge, la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel, avec également l'humanitaire, dont il faut laisser la porte ouverte sur le Niger. Nous allons en parler. Et puis, au Togo, en politique, on ne parle plus de rien. En politique, il y a quelques semaines, avec un certain enthousiasme, nous sommes allés nous faire recenser pour le recensement électoral et puis on ne dit plus rien. Est-ce que tout cela tombe à l'eau? Un article du journal La Manchette va nous faire revivre tout cela. Au studio, des gens en place, Kokou Gamélé, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Kokou Gamélé, Gadiel Tchonyadji et également Sylvestre Kokou Béni de La Manchette. Bonjour.
Oui, bonjour. Ça c'est bonjour à tous nos amis de la région centrale. Ils avaient fait une doléance la dernière fois de voir avec une radio de la localité. Je crois que c'est la radio d'Assoli.
Oui.
Afin qu'ils soient beaucoup plus écoutés. Donc prenez des dispositions. Je crois que
les contacts sont
les
en
contacts,
cours.
Voilà.
Et puis, vous connaissez, vous deux, Albert Camus?
Oui.
Eh bien, vous connaissez ses livres, mais Albert Camus nous offre la pensée du jour qui dit ceci. Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Encore une fois, il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Je ne sais pas si vous justifiez le monde, mais votre seule présence au Club de la Presse me rassure. Et quand nous sommes rejoints par Patom, Fabrice Pétiesi, je suis encore plus réconforté. Bonjour Patom.
Bonjour à toi, ça c'est... Je suis très content que tu sois très débordant d'énergie ce matin. Ça fait plaisir, et ça fait plaisir également aux auditeurs. Bonjour aux confrères ici présents, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Je voudrais bien que cette énergie, cet enthousiasme soit vraiment communicatif à nous tous. Mais pour tout cela, Gadiel, il faut d'abord que nous ayons ou bien que nous soyons en bonne santé.
Absolument.
Eh bien, le groupe de presse Santé Éducation et ses partenaires, vous avez organisé l'édition 2023 du marché du bien-être et de la santé. Les portes ont été closes le dimanche dernier. Veux-tu nous faire revivre ce marché en deux minutes, Gadiel?
Ok, comme vous venez de le dire, du 13 au 17 septembre dernier, nous avons organisé la 5e édition du marché du bien-être de la santé. Et c'était sur le terrain de Toti. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait ce qu'on peut appeler au gouvernement la promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on a organisé un certain nombre d'activités au profit de la population. Et les activités qu'on a organisées, c'est d'abord les dépistages, parce qu'on sait que beaucoup ne connaissent pas leur statut. Hein. Donc, on a fait ce qu'on peut appeler le petit bilan, hypertension, diabète, l'IMC, l'indice de masse corporelle, je veux dire, et puis d'autres analyses aussi, le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles et les femmes. Et puis le VIH-Sida aussi est arrivé.
Encore et toujours là.
Voilà, et puis la vaccination contre la Covid, il y a certains qui sont arrivés quand même faire. Donc, et beaucoup de conseils nutritionnels et autres. Maintenant, il y a des produits à haut impact sur la santé qui ont été aussi exposés. Et en troisième partie, c'est la conférence publique. Des experts sont venus développer des thèmes de santé, notamment tout ce qui tourne autour des de la médecine traditionnelle, hein, le processus d'homologation, et puis une communication ce qui a beaucoup intéressé les gens, le sport et la santé, et la prostate, hein, cet organe chez l'homme. Nous allons revenir sur cela après. Donc voilà un peu le menu qui a été servi à la population sur le terrain de Tortilly du 13 au 17.
Principale leçon, vous nous rappelez à connaître nos constantes, à savoir avoir sa tension artérielle, son taux de glycémie, l'indice de masse corporelle. On peut y ajouter également connaître son groupe sanguin. Hein, c'est des choses que nous devrions connaître et également faire connaître autour de nous.
Oui, c'est vrai, ce service, on ne l'a pas fait sur le terrain, mais comme vous venez de le dire, on peut arriver à faire cela aux prochaines éditions. Mais ce qui est remarquable à cette édition, les données se sont confirmées, l'hypertension dans la population, les gens sont venus avec une tension de 22, les gens sont venus avec une glycémie élevée à 5, les gens ont une glycémie assez très basse aussi. Donc vous voyez, il y a un problème au niveau de la population togolaise, donc ces genres d'actions, on doit les promouvoir, on doit les perpétuer. C'est absolument important pour sauver des vies.
La santé par l'éducation, à ce niveau, il faut saluer la décision prise par la Direction nationale de la documentation nationale qui établit les cartes d'identité. Maintenant, avant de faire établir votre carte d'identité, on demande que vous apportiez le papier qui porte votre groupe sanguin. Ah. Comme ça, en cas de KSIA, on pourra savoir au moins de quel groupe vous êtes. Et si on connaît également la tension, le taux de glycémie, on saura quels soins d'urgence nous donner. Je t'ai vu arriver ce matin avec la bavette, le masque. Je t'ai taquiné un peu si tu avais encore la COVID. Et tu m'as dit que par ce temps, quand on circule à moto, il faut toujours se protéger le nez. Parce que le rhume, les germes du rhume sont toujours dans la nature.
Absolument, vous savez, oui, absolument, vous savez, le rhume, une infection virale, donc le nez bouché, le nez coule et puis ça se bouche, on est malaisé, on se sent faible. Et si vous avez le rhume, vraiment, vous ne vous sentez pas bien. Donc c'est un mal qui est récurrent et c'est très contagieux, hein, il faut le noter. Donc quand vous avez ici au service à Canal FM un confrère qui fait le rhume, normalement il doit être isolé, sinon beaucoup seront contaminés. Maintenant, dans cet article, nous revenons sur les aliments qui sont efficaces contre le rhume, parce qu'il y a des aliments qui compliquent le rhume, attention, des aliments très raffinés que nous consommons. Maintenant, au niveau naturel, il y a des aliments qui, quand vous sentez le rhume, que vous devez consommer, et nous avons là-bas une dizaine d'aliments qui peuvent aider à renforcer l'immunité et à éradiquer rapidement cette infection.
Je vous laisse découvrir ces 10 aliments que Santé Éducation nous recommande pour renforcer notre immunité et combattre le rhume, parce que cette infection virale hautement contagieuse qui affecte principalement la partie supérieure du système respiratoire, y compris le nez et la gorge. Certains aliments donc peuvent aider à renforcer notre immunité et combattre ce rhume. Voilà. Encore que quand on parle de rhume, Sylvestre Béni, dans la population, nous confondons tout. Rhume, grippe, palu, maux de tête. En effet, on dit quel que le fou d'un homme là. Et puis on ne sait pas si c'est le rhume, si c'est la grippe ou bien si c'est le palu.
C'est des dérivés.
Et pour se situer, il faut encore aller consulter un médecin.
Voilà. Absolument.
Comme ça, on nous dira si nous souffrons d'un rhume, d'un palu, ou bien d'une grippe, ou bien de céphalée. Et le médecin saura nous recommander, nous prescrire les médicaments conséquents. Intéressons-nous à présent à notre cœur avec cette petite herbe que nous appelons en éveil en limite. Je ne sais pas comment Patom appelle ça en Kabyé. Arlinvi?
Ah, aucune idée.
Aucune idée pour le moment. Eh bien, Arlinvi, que Santé Éducation nous recommande pour la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Gadiel?
Une herbe importante, hein, qui est un don de la nature, un don de Dieu, parce que la plupart du temps, on ne la plante pas. Elle pousse comme ça, partout, dans nos maisons, aux champs. Et elle sert beaucoup à la santé cardiovasculaire. Des études pointues sont faites sur cette herbe-là et qui confirment que une tisane, un thé de cette herbe-là aide beaucoup à renforcer la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Cette herbe a des vertus vasodilateurs, donc c'est important de connaître cette herbe-là. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont grimpe au sein de la population. Il faut que chacun s'adapte à la situation. On adopte des herbes, on adopte un mode de vie pour éviter ce genre de maladie ou bien pour éviter des complications. Donc, il y a deux recettes dans cet article. Comment utiliser Arlinvi pour la santé du cœur et des vaisseaux sanguins.
Et Arlinvi, nous continuons avec les légumes verts, hein, qui sont vraiment utiles pour protéger nos poumons.
Des études qui sont sorties tout dernièrement prouvent que les légumes verts sont des amis du poumon. Vous savez, ça, on vient de parler du réchauffement climatique, de la pollution. Et l'un des organes qui reçoit le coup, ce sont les poumons. Les poumons, à cause de la pollution, les poumons reçoivent le coup. Et tel que les études le prouvent, quand ceux qui consomment souvent les légumes verts protègent plus leurs poumons, parce que les légumes verts ont des vertus qui déposent au niveau des poumons un certain nombre de propriétés actives qui protègent l'ensemble des poumons contre les infections pulmonaires. Les infections pulmonaires aujourd'hui sont légion, hein, l'asthme par là et tout. Donc c'est important cet article pour nous tous. La pollution de l'air est une réalité aujourd'hui. Lomé est une ville polluée. Donc aussi l'alimentation nous aide à garder notre santé. Donc les aliments, les légumes verts, je veux dire, on peut les trouver un peu partout dans le marché. Je pense on a cité 5 à 6 légumes verts dans cet article que nous connaissons bien, que nous devons consommer tout le temps.
Je rappelle que le studio de Canal FM est à moins de 100 mètres du marché aux fruits du marché aux légumes, hein, tout à côté ici. Gadiel, tu restes avec nous sur le coup de 12 heures. Si les auditeurs voudraient en savoir davantage, tu seras là pour leur répondre. Je rappelle que nos deux numéros sont toujours en place, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Merci d'être là, d'être arrivé. Je présume que vous avez trouvé du carburant pour vos engins, ou ceux qui vous ont transporté en ont pu trouver. Et ce matin, j'ai fait un peu le tour de quelques stations. On peut dire, hein, sans tirer de conclusion hâtive, Sylvestre Béni, que la situation revient de plus en plus normale.
Oui, il faut le dire que l'affluence baisse considérablement comparativement aux deux derniers jours. Moi, ce matin, je suis allé m'approvisionner quelque part à Venou. J'y étais autour de 5 heures du matin. Mais souffrais, j'étais la 33e personne.
Combien?
33e personne.
À 5 heures?
À 5 heures. Mm-hmm. Vous voyez, donc, ça veut dire... Je ne sais pas à quelle heure où les gens ont dormi là-bas, je ne sais même pas. Mais sauf que, comparativement donc, à ces deux derniers jours, l'affluence diminue considérablement. Beaucoup ont commencé donc à rouler, beaucoup ont quand même trouvé du carburant, même si c'est avec la croix et la bannière, parce qu'il faut quitter totalement ta zone. Hein, donc tu demandes là où tu peux trouver, si au moins ce que tu as peut te conduire là, et tu es sûr en priant le chapelet d'en trouver là où tu vas. Donc je crois que c'est... bon, beaucoup ont quand même fait cet exercice-là et beaucoup continuent à le faire.
Merci.
Mais disons que peut-être que d'ici demain, bon,
ce que nous souhaitons que vraiment cette normalisation aille crescendo, ouais, et que nous n'ayons pas à nous lever à 4 heures pour être le 50e auprès d'une station-service. Mais comme le rappelle le Magnat Libéré, nous avons connu 3 jours sans carburant. Et le Magnat Libéré donc écrit 3 jours sans carburant. Les vendeurs de boudets ont eu à nous dicter leurs lois. J'ai des amis qui ont payé le litre du carburant, boudait jusqu'à 1500. Oui. Il y a un ami qui a battu le record. Il risquait d'avoir une panne sèche. Il a dû prendre 10 litres de carburant, boudait, et à 2000 francs le litre. Oui. Mais c'était payer ça ou bien voir sa voiture bloquée quelque part. Quelque part, il y a toujours un choix à faire.
Oui, pour la petite histoire, j'étais à Kévé hier dans la matinée, et il y a un monsieur qui le cherchait, et puis bon, il y a un jeune qui vend du boulet, qui lui dit, bon, lui, il peut lui donner 2 litres à 5 000 s'il le souhaite. Bon, mon ami est là, il gratte la tête, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Donc, 2 litres à 5 000, vous voyez un peu, je crois, du fait donc, de cette pénurie. Beaucoup de Togolais aussi, bon, sont allés un peu dans la surenchère. C'est vraiment pas bien, il faut le dire. C'est vrai que c'est la loi du marché. Quand il y a pénurie, il faut augmenter un peu pour tirer encore plus de bénéfices. Mais le faire de manière malhonnête, je crois que c'est pas bien. C'est pas bien.
Souhaitons seulement que le normal se normalise et que cela deviennent réalité palpable dans tout le pays. Mais je reviens sur ma revue de presse avec le confrère La Lanterne qui titre ce matin « Pénurie de carburant au Togo, une manière pour le secteur des hydrocarbures de souhaiter la bienvenue à la nouvelle ministre Rose Kai Mivedo. » Le libéral Fabrice, ton journal écrit aussi « Pénurie de carburant, la patate chaude dans les mains de la nouvelle ministre du Commerce. »
Oui, c'est bien cela. Je crois que avec le remaniement ministériel que nous avons connu et le portefeuille du ministère du Commerce qui a changé quand même de preneur, je crois que pour un début dans un ministère, ça n'aurait pas été la meilleure des manières d'être accueilli, parce qu'il faut dire que si elle a déjà pris fonction, elle doit avoir démarré sur les chapeaux de roue. Avec cette histoire de carburant-là qui a retenu l'attention depuis plusieurs jours. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, on sent qu'il y a un semblant de retour à la normale, même si les usagers de la route continuent toujours dans la surenchère et autres. Mais j'avoue que on peut pas lui imputer cela, puisque tout le monde sait que pour faire revenir le carburant, c'est tout un processus, et il y a des structures qui s'en occupent. Alors donc, peut-être... s'il faut rattraper son prédécesseur, il n'est plus responsable de quoi que ce soit. Lui, il est déjà parti. Mais je crois que le problème, sans doute, est né à son niveau. Et le nouveau ministre, malheureusement, est venu le trouver. Heureusement qu'elle commence par trouver des solutions, parce que c'est un premier test pour elle dans ce ministère-là, où l'élément fondamental qui retient très souvent l'attention des uns et des autres, c'est la question du pétrole. De la gestion du pétrole par ce ministère et cette structure également qui est à ce niveau-là. Donc je crois que ça n'a pas été de tout repos pour elle, sans doute. Ça doit être quand même mettre rapidement les choses pour que les choses rentrent dans les normes. Bon, je crois que elle est en train de réussir le test, parce que comme on l'a dit, la situation se normalise.
Vivement, et comme l'écrit Liberté aujourd'hui, et si les vendeurs informels n'avaient pas existé, comment est-ce que Dadede aurait fait pour arriver à la radio hier? Et puis, c'est pas seulement les vendeurs du bourré qui dictent leur loi, hein. Liberté, pas une part, une caricature. Et nous rappelle que même les Z-Man, ont imposé leur loi.
Ah oui, hein. Oui. Ah oui.
Et puis, enfin, heureusement, le fameux bateau est là.
Mais là-haut, la question du boudet aussi, il faut se poser la question. Où est-ce que eux, ils trouvaient ce carburant-là pour le vendre? C'est là où il faut revenir à ces stations d'essence qui créent parfois une pénurie artificielle et gèrent avec leurs amis vendeurs de boudet, et après le soir, ils se partagent le magot. Ça aussi, c'est une malhonnêteté qu'il faut vraiment régler au niveau...
Qui tombe sous le coup de la loi.
De la loi. Et
le ministère devrait investiguer.
Qu'il faut vraiment régler au niveau des tenanciers des stations d'essence et les gérants. Parce que, effectivement, on peut pas comprendre. Parce que je crois que c'est pas au Nigeria, ils sont allés prendre ce carburant-là. C'est dans les stations-service, ils sont allés à une heure où tous les autres, peut-être, n'y étaient pas. Ils ont pris dans les bidons et ils se retrouvent de l'autre côté de la route pour vendre ça à prix d'or. Bon. Heureusement que c'est terminé. Peut-être que certains ont gardé même des invendus. On verra dans les prochains jours.
Merci. Cette situation de ces trois derniers jours repose les questions essentielles qui revient souvent et que nous rappelle aujourd'hui Focus Info. Comment fonctionne le circuit d'approvisionnement pour qu'on nous dise que le retard accusé par un seul bateau ait pu mettre tout un pays en émoi? D'autres journaux reviennent sur la fixation du prix. Quelles sont toutes ces taxes-là qui entrent dans la fixation du prix? C'est des questions qui reviennent avec récurrence. Je ne sais pas si nous pourrons y avoir des réponses un jour. Mais la dépêche y voit l'impunité doublée de pilotage à vue qui coûte cher aux Togolais. Et il y a également un communiqué de la dynamique de la majorité du peuple qui circule et qui est intitulé « Le gouvernement togolais rattrapé par le pétrole gate ». Autre journal, c'est le journal du Togo qui titre à la page 7 « Malgré cette pénurie, mais le gouvernement a tenu à préciser qu'il n'y a pas de hausse de prix.
Ouais. »
Donc, il faut rappeler ça. Le gouvernement tient à ce que les prix ne changent pas dans les stations-service.
Oui, je crois que ça, beaucoup le savent, puisque ceux qui ont fait quand même les tours donc, des stations, ils ont quand même su qu'il n'y a pas d'augmentation. C'est à, je crois, à 700 le litre. Donc,
le super.
Donc, il n'y a pas d'augmentation. Maintenant, pour revenir un peu sur cette gestion, c'est vrai, pendant des années, la société civile, les partis politiques ont surtout demandé au gouvernement togolais de leur montrer comment est-ce que fonctionne tout ce circuit-là. Surtout en ce qui concerne donc la vérité donc des prix. Beaucoup, je crois que l'ATC, l'association qui s'occupe donc des consommateurs, a toujours demandé à ce qu'on puisse pratiquer la vérité des prix. Comme ça, si ça monte à l'international, on sait que en fonction donc du calcul et tout ça, et puis les taxes qui qu'on ajoute à ce carburant pour que le consommateur final puisse l'avoir à 700. Les gens veulent connaître quand même tout le circuit, tout le réseau. Mais bon, pendant des années, on ne dit rien. Maintenant, comment est-ce qu'on s'approvisionne après? Bon, la ministre, en fait, la nouvelle me dit qu'il y a un retard donc de bateaux. Comment est-ce que cela est fait? Puisque dans ce pays, on nous a dit qu'on s'approvisionne trois mois et tout. Maintenant, comment se fait-il qu'on a attendu jusqu'à peut-être au dernier moment, est-ce que c'est au dernier moment qu'on a fait la commande, tout ça? Comment est-ce qu'il y a eu cette pénurie?
Mais je dois ajouter qu'à côté de l'information officielle portant retard d'un bateau, il y a d'autres informations qui ont circulé abondamment, à savoir une certaine grève des transporteurs de la société togolaise d'entreposage qui auraient manifesté leur mécontentement pour exiger le départ de leur directeur, je ne sais pas quoi.
Oui, eux, je crois que c'est le lendemain. C'est le lendemain que... Bon, vous savez, quand il y a ce genre de situation, tout le monde aussi veut véritablement en profiter pour régler un certain nombre donc, de problèmes c'est de la société. Eux aussi, ils ont manifesté en demandant donc, le départ donc, de leur directeur, un certain Perret, bon, qu'on découvre véritablement. Et bon, c'est vrai, on ne va pas faire de... Il y a eu le Perret, l'apprenti aussi, l'apprenti chrétien et tout ça. Donc bon, on ne sait pas si c'est la filiale ou si c'est bon, la famille et tout ça, mais on ne va pas faire une fixation. C'est le directeur. Donc, entre-temps, bon, si j'ai vu quand même les camions circuler, donc je me dis peut-être que
cela a
ils
été
ont trouvé quand même
réglé.
Une solution.
Vivement.
Mais vivement.
Alors, on a à peine fini avec cette pénurie d'essence que une certaine crainte commence déjà à prendre forme pour le ciment.
Ouais.
Alors, c'est à ce sujet que ton journal à manchette écrit à la page 5. Après l'essence, le ciment et Togolais, la croix continue. Et l'article dit qu'actuellement, le ciment, du moins ce CIM Togo, est livré à 70 000 la tonne au grossiste, avec 1 000 la tonne détaillant qui a son prix. Mais l'article dit que ce ciment, CIM Togo, pourrait éventuellement être livré au grossiste à 79 000. La même information qui circule sur le ciment CIMCO. Ça veut dire que si ces informations se trouvaient vérifiées, le prix du ciment risque d'aller à la hausse.
Oui, surtout le prix donc de CIM Togo. Déjà le week-end, nous avons eu l'information que déjà à partir donc de lundi, il y aura une majoration donc de CIM Togo. Dans nos investigations, on apprend également que CIMCO aussi hein, pourra donc monter un peu en gamme, une certaine légère, les indiscrétions parlent donc de 113 000 francs la tonne et tout. Mais tout cela aussi, je crois que la ministre a déjà une patate chaude entre les mains en ce qui concerne le carburant. Pour l'instant, on ne dit rien à propos, mais dans les officines et tout, c'est presque hein, dans la masse aujourd'hui. Et ceux qui ont quand même des stocks commencent déjà à serrer le robinet, hésitant donc de les vendre en attendant qu'on puisse homologuer ou officialiser cela pour gagner plus. Mais il faut faire observer également qu'il y a deux ans, c'est-à-dire en 2021 et en 2022, la société Cinco avait quand même fait sortir une note hein, adressée donc aux distributeurs disant qu'il y aura une majoration donc, du prix. Je crois que c'est, si ma mémoire est fraîche, en octobre 2021 et juin 2022. Mais entre-temps, c'était le ministre Adéché qui était là et qui, à la suite, le gouvernement aussi a sorti un communiqué en disant que non, que les prix restent inchangés. Je crois qu'ils sont... ils se sont attendus et après, bon, le statu quo est resté, le prix n'a pas changé. Mais cette fois-ci, à peine le ministre est parti, que déjà on entend encore du côté de Simtogo qu'il y aura encore une augmentation. Les choses se suivent, les choses se suivent. À peine le ministre est parti, on a eu pénurie de carburant. À peine il est parti, on parle d'augmentation donc, du ciment. Tout cela doit donner une certaine connotation. Ça dénote au moins quelque chose. Donc, il faudrait quand même que le gouvernement puisse également communiquer là-dessus. Officiellement, est-ce que Simtogo hein, a majoré et ses prix? Comment est-ce que les Togolais peuvent le payer aujourd'hui? Est-ce que c'est officiel? Sinon, il faudrait faire taire déjà les rumeurs pour que certains Togolais ne puissent pas tricher les autres. Vous voyez? Si c'est le prix n'a pas changé, il faudrait véritablement qu'on communique là-dessus, comme l'avait fait, je l'ai rappelé, l'ancien ministre et ADG. Donc, il faudrait également que la ministre, Mme Rosemi Vedor, si elle nous écoute, qu'elle nous dise clairement, est-ce que le prix du ciment Simtogo est monté?
Alors, justement, Fabrice, prix, donc, c'est vrai que pour le carburant, personne ne voyait rien venir, ça nous est tombé tout droit dessus comme ça. Maintenant, pour le ciment, avant même que la Manchette l'écrive aujourd'hui, depuis quelques jours, hein, j'entendais ces rumeurs à gauche et à droite là. Et il va falloir que le ministère du Commerce et pourquoi pas le gouvernement nous situe, nous prépare éventuellement à une augmentation des prix des ciments ou bien nous rassure que ces prix ne vont pas non plus bouger.
Oui, je crois qu'il le faut. C'est des éléments qu'on peut avoir un peu plus tôt, par exemple, moi, dans le cas du carburant, peut-être ce que j'ai reproché au ministère, j'ai trouvé le communiqué qui situait l'opinion un peu tardif. Mm-hmm. Parce que la pénurie doit avoir commencé, je crois, autour de jeudi, hein, jeudi, vendredi. Il a fallu attendre lundi, dans l'après-midi, pour avoir le communiqué qui situait les uns et les autres. Puisque généralement, pour la plupart, lorsque il y a affluence dans les stations d'essence, c'est que c'est une augmentation de prix, c'est les prémices pour une augmentation de prix. Donc, il a fallu attendre lundi pour qu'on soit rassuré à ce niveau-là. Je crois qu'au niveau du ciment, ça me surprendrait quand même, parce qu'en réalité, tout le monde sait que le ciment aurait pu être vendu à un coût beaucoup plus moins que ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'autres sociétés concurrentes qui sont arrivées au Togo, qui pouvaient vendre moins, mais à qui on a demandé d'augmenter le prix. Et on nous a expliqué que, bon, celles qui sont ici tiennent compte du personnel ou des Togolais se retrouvent et tout cela et autres. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui peut-être ce coût qu'on suspecte d'être élevé du ciment? Est-ce que c'est lié au transport? Est-ce que c'est la matière première qui est devenue chère? C'est pour cela que je dis, c'est des éléments quand même sur lesquels il faut que le ministre réagisse. Parce que quand ça se passe comme ça, les spéculateurs, eux, ils commencent. Mm-hmm. Ils commencent déjà par jouer à leur petit jeu. Et puis bon, finalement, après on se rend compte qu'en réalité, c'était une rumeur. Donc je crois que c'est des éléments quand même... sur lesquels on peut anticiper en disant non, il n'y a rien qui peut expliquer une augmentation de prix sur un produit dans une certaine période. On a parlé même on est allé jusqu'aux fournitures scolaires. Bon, tout ça là, c'est des éléments quand même sur lesquels le ministère doit vraiment travailler pour maintenir un peu les prix à leur niveau, quoi.
Dans ces moments où les nerfs sont quelquefois à fleur de peau, il faut que l'information officielle arrive à temps pour dissuader les spéculateurs et surtout rassurer la population, d'autant plus que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves se grattent la tête. Il ne faudra pas que d'autres problèmes viennent se greffer sur ce que nous avons déjà. Alors justement, revue de presse sur l'année scolaire 2023-2024, je rappelle que la rentrée administrative ou pédagogique a déjà eu lieu il y a 3 jours. Les directeurs, les inspecteurs, les enseignants sont en train de préparer le terrain pour accueillir les apprenants. Et le messager nous apprend que c'est au total autour de 3 millions d'élèves qui vont reprendre les cours le 25 prochain. Ces 3 millions, c'est du préscolaire jusqu'en terminale de toutes les écoles publiques, privées, laïques, privées, confessionnelles, aussi bien de l'enseignement général que des diverses filières techniques. Et à ce sujet, le messager continue à partager avec nous les 10 priorités du gouvernement. Et Fabrice, ton journal, Le Libéral, aussi parle de la rentrée scolaire 2023-2024 avec des perspectives pour la nouvelle année.
Oui, beaucoup de perspectives, pratiquement en 10 points. Il y a beaucoup d'éléments et je crois qu'avec la satisfaction constatée par tout le monde par rapport à la précédente année, je crois que les autorités en charge de l'enseignement également envisage faire les choses autrement au cours de la nouvelle année. Et donc, quand vous prenez, il y a plusieurs mesures qui touchent plusieurs secteurs d'activité, notamment le renforcement du corps enseignant, également les réglages au niveau des polices, des examens. On parle également de la construction des salles de classe. Ça fait quand même... Et le renforcement du personnel, ça aussi, c'est un élément qui est contenu dans ces priorités-là que le ministère des enseignements entend quand même insuffler pour la nouvelle année.
Voilà, ces 10 mesures, rapidement, Fabrice a commencé à en parler. Il s'agit de l'application de l'arrêté complétant la police des examens. 2, le recrutement d'une nouvelle promotion d'élèves professeurs. 3, l'introduction de l'anglais au cours primaire. 4, l'articulation entre les niveaux d'enseignement. 5, la formation des conseillers principaux d'éducation. On les appelait jusqu'à aujourd'hui surveillants. Ils deviendront conseillers principaux d'éducation. Ensuite, en plus de la discipline, ils vont également conseiller les apprenants pour ce qui est de leur bien. 6, l'élaboration des manuels de sciences et de citoyenneté. 7, le fonctionnement des périmètres pédagogiques. 8, le renforcement des allocations en ressources humaines. 9, une école privée modèle. Et enfin, 10, la création d'une centaine d'écoles et d'établissements scolaires. Alors, pour ce qui est de la mesure de l'introduction de l'anglais dans les écoles primaires, Sylvestre, ton journal La Manchette nous apprend que cette réforme entre en vigueur dès lundi prochain.
Oui, dès lundi, parce que vous savez, le Togo est entré donc dans le Commonwealth le 25 juin 2022, je crois. Oui, c'est bien cela. Et donc, la langue officielle, c'est l'anglais qui est en partage donc de ces pays-là qui sont dans le Commonwealth. Et le ministre Dodi Kokoroko donc a si bien fait donc d'introduire l'anglais déjà au préscolaire, au primaire, à partir donc de la rentrée prochaine. C'est vrai que c'est une phase pilote, mais dans les prochaines années, je crois que ça sera élargi donc à l'ensemble donc du territoire national. C'est vrai qu'il y a quelques écoles privées et tout qui ont été choisies pour le moment et tout pour la
donc,
phase
d'essai. Disons la phase pilote n'est pas limitée seulement aux écoles publiques,
non,
mais étendue également aux écoles privées.
Et donc je crois que c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons pas être limitrophe à un pays qui parle l'anglais, mais à chaque fois pour traverser la frontière, nous avons beaucoup de difficultés donc à converser avec les Togolais de l'autre côté, nos amis de l'autre côté. Bon, ce sont la plupart déjà à plat haut. C'est si on doit revenir
à nos parents,
nos neveux qui sont de l'autre côté de la frontière. Il nous arrive parfois qu'on n'arrive pas à se comprendre parce qu'ils parlent l'anglais, nous parlons le français, et puis il y a la barrière de la langue. Déjà, si nous commençons aujourd'hui à parler donc l'anglais, hein, au cours primaire, au préscolaire. Déjà, au préscolaire, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est quand on est donc, c'est dans l'enfance qu'on arrive véritablement à assimiler donc les langues vivantes, les langues étrangères. Et donc, déjà, quand ces enfants-là vont commencer par dire, you are the best, you are, vous voyez que ça part bien. Déjà, avant d'arriver donc en sixième ou en terminale, beaucoup peuvent valablement s'exprimer en anglais s'ils ont déjà eu le background et que s'ils s'exercent véritablement. Donc, je crois que c'est une très bonne chose, donc, l'institution de l'anglais.
L'anglais,
c'est pourquoi je disais tout à l'heure.
Jamais assez, Fabrice. Oui. Tu voyages souvent.
Oui.
Et c'est là que c'est quand nous voyageons que nous découvrons que l'anglais est vraiment la lingua franca un peu partout dans le monde. L'anglais vous aide à vous en sortir.
C'est un contrôle.
Oui, ça vous aide. Et parfois, c'est quand vous sortez, vous vous rendez compte que vous avez un petit peu d'anglais en vous. Parce que vous êtes obligé de vous efforcer de dire quelque chose. Mais je crois que comme on l'a dit, c'est une très bonne chose de commencer cela au niveau du primaire. Maintenant, on attend de voir comment ça va s'organiser. Alors, est-ce que c'est toujours le seul maître de la classe qui va faire cet anglais-là aux élèves, où il y aura une heure réservée à quelqu'un qui va se consacrer spécialement à l'anglais, parce que le système dans le primaire, c'est que c'est un enseignant pour une classe. Et maintenant, est-ce que ce sera une matière supplémentaire anglais où on fera les calculs, l'histoire et géographie en anglais à un niveau donné? Bon, tout ça là, il faut réfléchir pour pouvoir voir comment effectivement. Mais c'est une génération chanceuse, ceux qui vont démarrer cela, parce que à un moment donné, on risque d'avoir deux types de Togolais, un type de Togolais encore plus jeune, capable de vous parler l'anglais et le français, et puis nous.
À toi aussi. Non, moi je suis à l'anglais.
Hein. Non, vous êtes jusqu'à l'allemand, donc vous avez un...
C'est pourquoi j'ai mis à la une de ce matin en anglais, you speak in English, tu vois. Donc il faudrait que qu'on commence déjà.
Oui, mais je crois qu'aussi, peut-être qu'il faudra que ça suive. C'est-à-dire que malheureusement, qu'est-ce que nos langues deviennent dans tout ça?
Nos langues nationales.
Oui, c'est un autre débat.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a des gens qui sont revenus des pays anglophones et qui tiennent à ce que leurs enfants gardent leur anglais. Bon, maintenant, à la maison, on force les enfants à parler l'anglais pour ne pas l'oublier. Alors, aujourd'hui également, ça ne devra pas se limiter à l'école. Vous savez que quand ça se limite seulement à l'école, c'est pas très véhiculaire. C'est-à-dire, quand vous l'apprenez, il faut avoir un interlocuteur pour pouvoir vous exprimer, vous habituer au fur et à mesure. Mais dans tout ça là, c'est bien beau, ça règle un problème, mais ça crée un autre, c'est que c'est toujours nos langues qui finiront par...
Nous apprenons les langues des gens, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, le russe, l'arabe et consorts.
Le chinois qui se repent d'ailleurs.
Oui, mais qu'en est-il de nos langues? Et c'est un constat douloureux. L'enseignement des langues nationales, ne serait-ce que pour l'éveil et le cabiais, cet enseignement est déjà en panne dans les écoles, par faute d'enseignants. Donc, l'éveil, le cabiais, le kotokoli, quoi encore, la koso, le bassa, le naouda, et le tchokossi, et autres. Qu'est-ce que nous faisons de nos langues?
Ça,
c'est une grosse question à laquelle nous n'allons pas répondre aujourd'hui.
Mais
si
vous le permettez, il y a une manière de nous comporter, c'est-à-dire nous les Togolais, c'est-à-dire le fait même de parler le français à nos enfants, à la maison. Moi, je dis que c'est déjà un problème. Parce que tôt ou tard, une fois que l'enfant sera à l'école, il arrivera quand même à s'exprimer en français. Puisque ce serait donc la langue donc d'enseignement. Et à l'école. Maintenant, le mieux à faire, c'est de parler nos langues à ces enfants-là à la maison. Vous voyez? Mais ce que nous faisons d'habitude, c'est que déjà, à 2 ans ou 1 an, on dit, viens, laisse, tout cela. C'est comme si nous faisons comme si c'est ça, en fait, l'émancipation. Oh, c'était plutôt une erreur. Parle nos langues à ces enfants-là à la maison, hein? Et tout ce que nous allons faire, faisons-le dans nos langues. Maintenant, l'enfant qui ira donc à l'école et tout ça, va apprendre naturellement les autres langues. Mais bon, nous faisons plutôt l'erreur de dire, bah, et oui, on croit que bon, c'est...
Mais le vrai problème, c'est... Oui, pas Tom? Oui, aujourd'hui, le mandat a évolué. Ceux dont il parle, la plupart de ceux qui ont aujourd'hui près de 50 ans ont la chance d'avoir le père et la mère qui sont d'une même ethnie. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, c'est des éléments qui n'existent plus. Il y a des gens, vous avez un couple où l'un est d'une autre ethnie et l'autre, et puis ils ne parlent pas leur langue. Qu'est-ce que ça va devenir? Finalement, tout le monde se rabat sur le français ou tout le monde se retrouve. C'est un peu cela. C'est pas parfois de gaieté. Ça se fait. Quand vous avez la chance, mais peut-être ceux qui ont la chance de parler la même langue, et ils font comme ce que mon confrère est en train de dire. Là, on peut leur reprocher beaucoup de choses. C'est vrai que dans le couple, l'un peut faire l'effort aussi d'apprendre la langue de l'autre. Mais lequel prendra le dessus? Mais il faudra que les mamans fassent... Sauf qu'aujourd'hui aussi, les mamans ne restent plus à la maison pour apprendre aux enfants à parler.
Non seulement les mamans, mais également les papas. Parce qu'il y a un cas qu'on peut citer, c'est Feunyasingbe Yadema. Dieu seul sait qu'il a fait des enfants avec des femmes d'un peu partout. Mais j'ai des preuves pour dire que tous les enfants d'Yadema parlent Kabyè.
Oui.
Tous les enfants d'Yadema parlent Kabyè. Avec des femmes d'Anéro, de Tabligbo, d'ici et de là. Tout, de Palimé, d'Agou et d'ailleurs, tous les enfants d'Yadema parlent Kabyè. Comment il s'y est pris? Malheureusement, il n'est pas là pour nous donner la recette. Mais si nous approchons ces enfants, peut-être que nous pourrions avoir quelques éléments. Oui, Gadiel?
C'est absolument important. J'ai suivi un débat comme ça des professionnels en éducation qui ont dit que ces enfants à qui on transmet avant d'aller à l'école le français, c'est très mauvais pour leur apprentissage après. Donc, ils ont donné des preuves. Et ce que Fabi disait tantôt, ce n'est pas impossible qu'un couple qui vient, par exemple, un couple Kabyè et un couple Évé, qui, voilà, que leur enfant ne parle pas leur langue. C'est possible. Il faut mettre la volonté. Ce qu'on remarque, c'est que les enfants ne parlent même plus aucune langue.
Oui.
Ni du père, ni de la mère.
Voilà. C'est ça qui est dommage. Ils ne parlent aucune langue maternelle. Ni du père, ni de la mère. On se met en français. En
et
tout
au
cas
village,
aujourd'hui,
ils sont déboussolés.
Voilà, en tout cas aujourd'hui,
ils ne vont même plus au village.
ils sont déboussolés avec les autres enfants.
Bon, c'est pas une attaque, mais Fabrice, combien de fois tes enfants retournent dans ton pays Kabyè?
Bon,
voilà,
la réponse n'est pas.
Ça donne tout. Eh bien, revenons et terminons par les réformes. C'est vrai, ces 10 mesures dont nous parlons. Avec beaucoup d'attentes et d'espoir, mais il y a également des ombres au tableau de Cocoroco et de l'école publique. La preuve, cet article de Liberté qui nous transporte au quartier Tochivi-Blingomé. École primaire fermée, quartier abandonné, les résidents en détresse suite aux dernières inondations. Donc l'école de... si vous voulez Fabrice, on peut y aller dans cette école après l'émission. Oui. L'école est fermée cette année pour cause d'inondation. Et le cas de Tochivi-Blingomé, on peut peut-être trouver ça un peu partout ailleurs. Ça veut dire que Cocoroco a encore du pain sur la planche.
Oui, je crois que c'est pourquoi quand tu prends les prévisions pour la nouvelle année, on parle de construction
d'une centaine d'écoles.
D'une centaine d'écoles. Il le faut. Et maintenant... Il faut vraiment s'attacher les services des urbanistes pour construire les écoles là où il faut pour ne pas mettre en danger les enfants. Parce qu'effectivement, quand vous voyez la situation de certaines écoles, je crois qu'à un moment donné, si on avait réfléchi, on aurait peut-être pensé à implanter l'école dans un autre endroit qu'un autre. Bon, c'est vrai que parfois les politiques se mêlent à ça. Chacun souhaite que l'école soit... peut-être dans son village ou dans son quartier, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est des éléments qu'il faut dépasser. Il faut tenir compte du fait que une école, ça doit être un cadre quand même très sécurisé, parce que ce sont les enfants qui viennent là-bas, et il ne faudrait pas que ce soit des écoles qui fonctionnent par saison, c'est-à-dire que quand il pleut, c'est les vacances, et il faut attendre la fin des pluies pour venir faire le coup.
Alors Sylvestre, dans ce domaine, Cocoroco a déjà anticipé avec sa fameuse carte scolaire qui a consisté à éclater certaines écoles, à regrouper d'autres, mais également il a initié un recensement de toutes les écoles publiques et s'assurer que toutes les écoles publiques ont leur titre foncier pour ce qui est de la sécurité du site. Maintenant, les efforts doivent continuer dans les bâtiments. Une centaine d'écoles à construire cette année, c'est bien. Mais peut-être que le besoin sur le terrain dépasse cette
prévision. Oui, le besoin. Je disais, il y a quelques semaines ici, où un auditeur a appelé. Il disait que dans sa zone, je crois que c'est dans sa zone, c'est bon au niveau de au-delà de Sogbosito. Bon, il a donné un nom où il n'y a même pas donc de colle publique. Donc ils sont obligés donc d'aller dans un institut privé. Et là, ils ont majoré le prix, ils ont augmenté, donc ils ont mis 25 000 francs là-dessus. Vous voyez, ça a créé également hein, ces gens donc d'attitude malhonnête que dont nous venons donc de dénoncer. Donc il faudrait quand même que l'État soit dans l'anticipation. Ça c'est le rôle de l'État. Il faut doter donc la zone. Hein. Il faut faire un bon maillage du territoire pour qu'au moins, même si le Togolais qui est dans un coin un peu reculé, au moins, même si c'est un kilomètre ou deux kilomètres, il faudrait quand même qu'il y ait quand même de l'école publique hein, à ce niveau-là pour permettre de donner la chance hein, donc à tous les Togolais, à tous les fils donc du pays, hein, à ces jeunes-là hein, d'aller à l'école, de devenir donc la relève de demain. C'est vrai qu'il y a un projet qui est déjà là. Je crois qu'on parle de 3 000, un peu plus de 3 000 salles de classe qui sont en construction. Mm-hmm. Il faudrait quand même qu'on puisse hâter donc le travail pour que on puisse recevoir ces bâtiments-là et corriger tout ce que nous faisons aujourd'hui.
Dans ce sens, il y a également un document selon lequel une école primaire, préscolaire et primaire, ne doit pas être à plus d'un kilomètre de la maison des élèves. Oui. Et le collège, dans tout plus un kilomètre et demi, deux kilomètres, pour que l'école soit plus proche des élèves. Oui. Et pas comme les Patom qui ont dû parcourir des dizaines de kilomètres pour l'école primaire. Danton, il y a des là-bas, Fabrice. Ou bien tu as fait l'école primaire à Lomézi?
Non, je l'ai faite, je l'ai faite à Cara. J'ai quitté donc pour l'école catholique. Bon, c'était bien pour... ça faisait que...
C'était quelle distance?
On n'était pas obèse.
Je comprends maintenant pourquoi tu prends du poids.
Oui. Ouais.
Merci. Nous continuons avec la diplomatie internationale et la coopération sous-régionale. Cette semaine, c'est l'ouverture de la 78e Assemblée générale des Nations Unies avec des chefs d'État qui ont déjà commencé à défiler à la tribune pour délivrer leur message. Mais selon toute vraisemblance, Faure Gnassingbé ne sera pas du rendez-vous cette année, Sylvestre Béni.
Est-ce que l'année dernière aussi, il n'y était pas? Je crois qu'il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères. Bon, cette année, bon, on verra.
Rien n'est encore annoncé.
On verra s'il sera là ou non. Mais je ne sais pas si la nouveauté, c'est le Niger qui...
Nous allons y arriver. Mais commençons par l'Assemblée générale des Nations Unies avec ce titre de la lanterne. L'organisation mondiale doit s'affranchir de l'emprise de l'Occident. C'est vrai que l'Occident est vivement attaqué sur tous les flancs, aux Nations Unies, en Afrique et un peu partout. C'est l'actualité du moment. Et Liberté publie cette tribune de notre compatriote Yves Kouya-Maïso, qui se demande si les BRICS, à savoir ce groupe constitué par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le BRICS qui vient d'être élargi à de nouveaux pays, est-ce là une opportunité pour l'Afrique? Cette réflexion de Yves Ekwe à Maïso. La Dépêche nous parle d'un autre chapitre. Il s'agit de cette charte de l'Iptako gourmand qui vient d'être signée il y a quelques jours par les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui crée l'Alliance des États du Sahel. Alors, la Dépêche écrit, l'Alliance des États du Sahel est née. La CDAO, au pied du mur. Oui. Et Sylvestre Béni, ton journal La Manchette, voit déjà dans la création de cette Alliance des États du Sahel des prémices pour la fin de la CDAO. Sylvestre?
Oui, on peut le dire, des prémices pour la fin de la CDAO, parce que si on prend ces trois États-là, du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en fait, c'est une alliance assez forte et ils se tiennent les coudes, c'est-à-dire ils sont ensemble aujourd'hui. Si vous défendez, vous attaquez, par exemple, vous attaquez le Niger aujourd'hui, c'est les deux autres pays que vous attaquez, à savoir donc le Mali et le Burkina Faso. Donc c'est une alliance forte et ils l'ont dit, si vous prenez, nous avons publié l'intégralité donc de la charte aujourd'hui, si vous prenez l'une des dispositions, ils disent qu'ils peuvent, ils donnent libre cours aux autres donc d'adhérer à cette alliance. Et lorsque vous prenez un peu dans la zone, vous voyez que la Guinée qui avait également, la Guinée-Conakry qui avait également annoncé que si la CDAO attaque donc le Niger, que ce sera donc la dislocation de la CDAO, le colonel Mamadi Doumbouya l'a dit ouvertement dit. Le Niger aussi, le Mali, et même son de cloche. L'Algérie qui n'est pas pour une attaque donc du Niger parce que ça va déstabiliser la zone et tout ça. Mais lorsque vous prenez un peu la carte du Sahel, vous verrez que tous ces pays-là qui soutiennent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre ou qui ne veulent pas qu'on attaque donc l'un des pays du Niger, et ils sont presque dans une même longueur d'onde, ils sont presque dans une même mouture, ils veulent aller ensemble. Et si jamais l'Algérie, qui est une puissance en Afrique, rejoint donc l'alliance, vous verrez, et si jamais, si demain, la Guinée qui rejoint, la Mauritanie qui n'est pas trop loin, et qui aussi dénonce le fait donc qu'on attaque le Niger, si ces pays-là ont fait un front commun, vous verrez que, au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, nous allons peut-être souffrir un peu parce que ces pays, osons un peu le terme, font un peu nos ports aujourd'hui. Vous prenez donc le cas donc du port de Lomé, ces pays enclavés là ont une grande part, c'est-à-dire que leur commerce, leur marchandise transite par le port de Lomé. Et vous verrez que chaque année, les responsables du port autonome de Lomé vont souvent dans ces pays du Sahel pour leur faire d'autres propositions, d'autres offres pour que le Togo, le port donc du Togo soit beaucoup plus visité et que leurs marchandises transitent par ici. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai que on profite d'eux, mais eux aussi profitent de nous. Mais si un jour il doit changer donc de cap, vous verrez que nous allons commencer déjà par nous tenons.
Alors donc, Fabrice, ce qui fait la particularité de ces trois pays, ils sont dirigés par des militaires. C'est des pays qui sont attaqués par le terrorisme. Et puis c'est des pays également qui sont en rupture avec la France et bien d'autres. Alors cette alliance-là, c'est d'abord d'autodéfense, de partenariat, mais ils disent également s'ouvrir à d'autres États, pourquoi pas jusqu'au Golfe de Guinée. Mais on a vu le G5 Sahel qui n'a pas prospéré. Est-ce que ce qu'on peut appeler en diminutif le G3 Sahel connaîtra un meilleur sort?
Non, je crois plutôt que c'est pour régler un problème circonstanciel. Ce regroupement-là ne pourra jamais venir à bout de la CDAO, qui, je suis d'accord, naturellement, peut-être fera des réformes en son sein. Parce que la CDAO, quand vous prenez pratiquement tout le continent, c'est l'une des organisations sous-régionales la mieux organisée. Si je me permets de faire la tautologie. Et donc, aujourd'hui, ces pays-là sont face à un problème. Et naturellement, c'est un moyen de pression pour eux de se regrouper comme cela et de parler d'une seule voix. Et pour moi, lorsque on aura fini avec cette situation, je crois que certes le nom restera, mais comme vous le dites, il y a beaucoup d'organisations au sein de la CDAO. Il y a certains qui étaient dans le Conseil de l'Entente, qui sont, je crois, 5 ou 6, je ne sais plus. Et vous avez parlé du G5 Sahel également. Donc le regroupement, il y en aura, mais la CDAO, je crois qu'elle restera toujours, même si elle a besoin de faire d'énormes réformes pour pouvoir tenir.
On verra bien ce que cela va donner. Toujours sur le terrain de la coopération sous-régionale, il y a cet article de Togo Matin. Aide humanitaire, le Togo qui pense d'abord à l'intérêt supérieur des peuples de la CDAO. Tout est parti de cet échange de courrier entre le Togo et la Nations Unies. Les Nations Unies qui ont sollicité le Togo et le Bénin aussi pour offrir des couloirs pour l'aide humanitaire. Le Togo souscrit entièrement à cette idée. Et déjà que le Togo n'a jamais officiellement fermé les portes vers nos voisins, nos parents du Burkina, du Mali et du Niger. Kwaku Sylvestre?
Oui, je crois que c'est un bon pas vers la résolution donc de la crise humanitaire quand même au Niger, parce qu'il faut le dire, bien avant même le l'attaque du moins le renversement donc du régime. Je crois avoir lu que quelque part que au Niger il y a un peu plus de 4,3 millions donc de personnes qui vivent en deçà donc du seuil de pauvreté avec moins de $1 par jour. Et donc les aides humanitaires qui étaient donc sur le territoire, bon après donc le renversement, il y a beaucoup qui ont arrêté donc d'assister ceux qui en ont véritablement besoin. Donc le Togo qui bénéficie ou qui bénéficie donc du soutien donc de l'ONU et qui veut quand même jouer ce rôle, je crois que c'est une très bonne chose. Mais entre temps, je crois que par un courrier de l'OTR, le Togo avait quand même demandé à ce que les commerçants nigériens ne puissent j'ai oublié un peu le contenu, ne puissent plus transiter
pour
faire respecter la décision de la CEDEAO. Maintenant que le Togo accepte l'aide humanitaire, je crois que on sent peut-être la situation se décante progressivement. Et le Niger n'a pas encore dit non au Togo, mais ils ont quand même dit non au Bénin, parce que j'ai également lu un courrier donc d'un officiel béninois qui dit que bon, ils veulent véritablement aller, mais de l'autre côté ils ont mis des barrières
pour les secteurs et tout ça,
du fait donc de la susceptibilité
entre États, tu m'as fait ceci, je t'attends pour te régler les comptes. Bon, les États, c'est disons comme nous
aussi. Disons que pour l'instant, le Togo a le vent en poupe. Donc, le Togo peut quand même valablement jouer ce rôle en attendant que la situation...
Merci. Nous allons terminer avec cet article de La Manchette qui est intitulé « Au piège du régime, l'opposition entre silence et capitulation ». L'article dit que le processus électoral engagé avec beaucoup d'enthousiasme, de diligence, dynamisme semble avoir pris un sacré coup. Et la CENI est entrée dans un profond coma, suivi par l'opposition qui est dans une sorte de dormition. Avant de venir à Sylvestre, Fabrice, il y a quelque temps, l'heure était aux élections législatives et régionales. La CENI avait lancé le recensement électoral. On l'a fait avec tout le débat. Et puis depuis, personne ne dit plus rien.
Oui, c'est quand même curieux, mais peut-être ça peut s'expliquer par, je sais pas, la situation inconnue, parce qu'en réalité, on était bien parti pour organiser des élections au cours de cette année, mais à l'allure où vont les choses, on risque de n'en organiser aucune, et on va se retrouver en 2024. Est-ce qu'on pourra l'organiser cette année? Mais je crois que, effectivement, les gens se sont calmés un peu. Par rapport, même les hommes politiques ne disent plus grand chose. On avait vu l'effervescence avec des regroupements, des conventions qui se tenaient par ici et là au niveau des partis politiques. Mais au niveau de la CENI également, on a l'impression que c'est le stand-by. De toutes les façons, je crois que tout était déjà préparé. Maintenant, bon, comme on le dit très souvent, l'ordre vient d'en haut. Il faut que le haut lieu décide pour qu'on sache exactement. Mais à l'allure où vont les choses, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse organiser les deux élections. Je doute, parce que nous sommes déjà en octobre. Mm-hmm. Et novembre, décembre...
En septembre, au moins.
Non, pour moi, septembre est déjà fini.
Oui, l'ordre doit venir d'en haut, sauf que l'en haut même est soumis au calendrier républicain. Oui. Hein, l'Assemblée nationale, les députés actuels arrivent à la fin de leur mandat en décembre 2023. Oui. L'ordre républicain demande qu'on renouvelle les institutions à temps. Oui. Et comme le dit Fabrice, nous risquons d'aller à ce pessimisme qu'on n'ait pas les élections législatives cette année, régionales encore moins. Et puis, le terme est venu de la RDC. Nous allons connaître un glissement dont nul ne peut nous dire actuellement le prochain terme.
Non, ce ne sera pas en réalité le premier, puisque vous avez vu, les élections législatives de 2013 ont été faites avec un glissement dont tu parlais, puisque normalement, ce devait être en 2012.
Il y avait une situation de plus ou moins de crise et donc, que les acteurs politiques s'étaient entendus. Pour
encore que vous preniez, il y a une disposition qui est dit que les députés et sortants restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Vous voyez, ce terme-là résout presque ce glissement de calendrier. Au cas où on n'a pas les élections cette année. Ils peuvent rester en attendant que qu'on puisse les organiser, que les autres puissent venir. Mais ce que nous disons ce matin dans ce papier, c'est ce silence là où personne ne dit mot. On se contacte donc du Niger, du Mali, du Gabon et tout. Et donc sur le plan intérieur, en ce qui concerne donc la politique intérieure, personne ne dit mot. L'opposition ne dit rien. Le pouvoir aussi se tait. Mais il y a quand même des choses que moi je trouve qui sont presque sine qua non, c'est-à-dire le découpage électoral, par exemple. Ce sont quand même des questions qui reviennent très souvent. Est-ce que les élections, est-ce qu'on le fera de manière couplée ou individuelle, c'est-à-dire est-ce qu'on aura les législatives et les régionales en même temps, ou est-ce qu'on le fera séparément, et l'opposition et le pouvoir, nul ne peut nous le dire aujourd'hui. Il y a d'autres, vous savez qu'on profite également des élections pour évoquer la question donc des prisonniers politiques. Ça permet également d'élargir certains et tout ça. Donc il y a tellement donc de choses, mais bon, c'est statu quo. C'est pourquoi nous nous sommes demandé si c'est un silence ou c'est une
voilà la CENI qui est entrée dans un coma profond et l'opposition dans l'état de dormition.
Oui, et puis l'autre élément, moi pour moi ça c'est un avis personnel, quand j'ai vu le dernier remaniement ministériel, je me disais tiens, en principe on est à quelques encablures des législatives, et généralement c'est à cette occasion on profite pour faire le balayage. Bon, maintenant, lorsqu'il est intervenu, je me dis que ça voudrait dire que l'Assemblée actuelle a encore de beaux jours devant elle, et que le président n'aura pas attendu peut-être les législatives pour faire un remis ménage au sein de son gouvernement. Bon, il a repositionné ses pions et on avance.
Voilà, et en décembre, si les élections législatives ne sont pas faites, les députés actuels vont demeurer en fonction, et l'Assemblée donc, nationale va rejoindre donc pratiquement toutes les institutions constitutionnelles, la HAC, la CNDH,
même la Cour constitutionnelle.
Même la Cour constitutionnelle, qui sont hors délai, mais la République va comme ça. Il est 12h passé légèrement de 3 minutes. Nous allons suspendre nos échanges ici nous attendons incessamment les auditeurs.
Le carburant est arrivé hors délai.
93.5. Canal FM.
Sur les questions de santé, l'actualité sociopolitique, le carburant et bien d'autres, la rentrée scolaire et puis la diplomatie au niveau du monde et de la sous-région. C'est les débats que nous avons tenus et sur lesquels nous attendons à présent. Premier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alléluia.
Amen. Évangéliste Ngo. Amen. Eh bien, nous
attendons. Je voudrais m'intéresser sur l'Union européenne qui a demandé la libération des aides humanitaires.
C'est les Nations Unies qui ont demandé aux États de libérer des couloirs pour l'aide humanitaire.
Voilà. Je salue le président de la République, étant un homme. Avec tout ce qui se passe avec le pays nigérien, c'est la population. On va tout faire un homme, un humain, avant de pouvoir se passer à ça. Et ça, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, personne n'est contre le coup d'État, mais laissez-moi vous dire sur votre enquête.
Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a séparation entre l'Église et l'État. Et nos États sont en principe laïques. Même si la liberté de culte est reconnue, nos États sont laïques et pas nécessairement dirigés directement par Dieu. En fait, c'est ce que je sais.
Ok. Donc, forcément, il est
merci beaucoup, Senghor. Oui, merci. La communication a fini par se dégrader. Mais nous enchaînons avec le suivant. Bonjour.
Oui, bonjour, Canal FM.
Oui, c'est monsieur.
Monsieur Komla.
Depuis
Adjidogomi.
Ok, nous écoutons.
Moi, j'interviens par rapport à l'augmentation des prix du ciment.
Les prix n'ont pas encore augmenté, mais c'est une crainte que le journal avance.
Moi, je vous dis avec confirmation que les prix ont augmenté. Vous pouvez vérifier. Les prix du ciment, Cimtogo, aujourd'hui est à 79 000 et le prix du ciment Simco est à 78 000.
Vous parlez avec preuve là?
Oui, bien sûr, vous pouvez vérifier.
Merci.
Oui, c'est pour ça que moi j'appelle.
Merci pour cet élément. Le ministère du Commerce devra nous situer si c'est une crainte ou bien si ça a déjà commencé sur le terrain. Le troisième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Johannes.
Johannes, nous écoutons.
Il ne sait pas ce qu'on gagne à promouvoir la langue des autres. Je me demande, c'est-à-dire, le ministre ne dit rien que nos langues. On n'apprend plus nos langues nationales dans nos écoles. Ça ne dit rien. Et on trouve important de sortir, je ne sais pas, d'un décret ou bien, pour dire qu'il faut apprendre l'anglais à l'école.
À l'école qu'est-ce primaire.
Qui, à l'école primaire. Qu'est-ce qui urge dans ça? Qu'est-ce qui urge dans l'apprentissage de l'anglais à l'école primaire?
Nous l'avons un peu dit, hein, c'est l'ouverture sur le monde, notamment avec nos grands voisins, le Ghana, le Nigeria.
Pour s'ouvrir sur le monde en s'ignorant soi-même. C'est quel genre d'ouverture? Les autres, comme ça, ils se sont ouverts sur nous et ils nous ont imposé leur langue. On ne demande pas d'imposer nos langues à d'autres personnes. Mais si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous approprier notre langue, et on trouve important, moi j'ai appris le vœu au collège. J'ai appris le vœu au collège. Aujourd'hui, c'est aisé pour moi de lire des choses en anglais. J'avais l'impression que c'était naturel. Mais je me rends compte par rapport aux autres que c'est parce que j'ai eu à l'apprendre que c'est plus facile pour moi. Mm-hmm. Je crois que c'était naturel parce que bon, on parle minal à la maison, tout ça là. Mais lire le vœu, lire nos langues, si on ne l'apprend pas, on n'arrive pas à le lire.
Merci.
Et c'est pour d'ailleurs même trouver que quand on assimile sa propre langue nationale, lorsque les enfants assimilent leur langue nationale, c'est plus facile pour eux d'apprendre d'autres langues. Donc finalement, on veut quoi pour nos enfants? Est-ce que la promotion de la langue, cette langue des langues étrangères, moi je ne sais pas.
Johannes,
oui?
J'espère que vous-même vous parlez votre langue à vos enfants à la maison.
Pas pour le, je n'ai pas encore d'enfants.
Ok, vivement, vivement.
Oui.
Merci Johannes. Le suivant, bonjour.
Oui. Bonjour, c'est Armand.
Oui.
Bonjour le plateau.
Bonjour à vous.
Il faut dire que cette histoire de d'identité vraiment a toute sa place, comme mon précédent l'a dit. Mais il faut, comme un jour, un de vos collègues, le DP Fabrice, l'avait bien dit, il faut que chacun puisse voir dans quelle proportion, par exemple, à la maison, vous avez une épouse qui est d'une autre ethnie, vous allez vous mettre peut-être à parler la langue de l'un ou de l'autre pour que les enfants puissent s'imprégner. Parce que ce que moi je reconnais dans l'initiative, comme bonne dans l'initiative d'apprendre l'anglais à partir du primaire et du préscolaire, c'est que le problème des francophones, c'est que nous n'arrivons pas à parler. On écrit très bien la plupart du temps, mais quand on dit aller à l'oral, s'exprimer, écouter, mais bon, c'est des problèmes. Donc avec ça, on pense qu'on pourra trouver une solution à ça. Je salue aussi l'initiative que le souci permanent que le chef de l'État, son Excellence Fornia-Singbe, a pour la sous-région. Entre-temps, c'était le Mali. Maintenant, c'est souci sur
le Niger.
Se voit porter sur le Niger.
Merci beaucoup. Nous saluons la très forte communauté du Niger vivant chez nous ici au Togo, également nos compatriotes qui vivent à Niamey et dans les provinces du Niger. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Vous avez Jean.
Jean.
Oui.
Jean de...
Je vais intervenir par rapport au ciment, l'augmentation des prix. Je confirme que hier matin, à 9h déjà, j'ai acheté le ciment à 78 000 francs la tonne.
Dans quel quartier?
C'est au niveau de Sogo-Sito.
Sogo-Sito.
Oui.
Vous avez le
hier
reçu,
matin,
vous avez le reçu que le ciment vous a été vendu à 78 000 francs CFA.
Si, j'ai le reçu.
Ok.
Oh ouais.
Ok. Merci.
Donc, ce n'est pas une prévoyance qu'on va augmenter. On s'est déjà augmenté depuis hier.
Encore une fois, le ministère devra nous situer là-dessus. Le suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon commandant.
Bonjour, Patrick.
Bonjour, Patrick. Comment vous allez ce matin?
Nous rendons grâce à Dieu.
D'accord. Alors, premièrement, là, j'aimerais m'adresser à mon ami Gardiel de la santé.
Oui.
Concernant les légumes verts dont vous avez fait cas, là.
Oui.
Bon, est-ce que, parce que ce que nous traversons présentement, là, les légumes que nous mangeons, là, avec les produits chimiques, là, ça peut faire l'affaire? Je ne pas bien de Zadiga, c'est bien de conseiller, mais d'ajouter que c'est bio qui fait l'affaire, ou bien tout ça, avec les produits chimiques, là, ça peut, ça,
okay.
ça peut aller.
C'est bon.
Ça, c'est un.
Deux,
concernant le problème du carburant, là, monsieur Sass.
Oui.
Nous avons l'habitude de dire sur cette antenne, chaque fois que on n'a qu'à réorganiser le secteur de boulet, les produits frelatés là, de réorganiser ce secteur, de ne pas le bannir. Voyez-vous, s'il n'existait pas là, comme vous venez de le dire, pour le cas de votre confrère, ou bien votre consoeur là, plutôt, d'ADD là.
Non, je n'ai pas dit qu'elle a pris du boulet. Hein.
Bon, ben, quand même, c'est pour enlever aussi la galerie, donc. Mais, peut-être si le secteur là n'existait pas là, à part d'ADD là, tous ceux qui ont pris, moi-même, j'en ai pris hier à 1000 francs, à 2 francs le litre.
Uh-huh.
Si le secteur là n'existait pas, comment allons-nous faire? Donc, c'est un appel aussi, quand même, à nos autorités, de ne pas bannir ce secteur qui utilise plein de gens.
Mais de le réorganiser.
Voilà.
Je rappelle qu'il y avait un projet en son temps, la DOSI, qui avait un projet de réorganiser le secteur du pétrole. Mais on ne sait plus ce que cela est devenu. L'auditeur suivant, bonjour.
Mohamed.
Ouais, Mohamed.
De Sobosito.
De Sobosito.
Ouais.
Eh bien, nous écoutons.
On vous met le vent, monsieur.
Oui, on se connaît un peu.
Ouais. Je salue le plateau.
Merci. Nous vous saluons en retour.
Merci. Pour la langue, les gens qui se marient, ils étudient à une autre là.
Oui.
Je connais trois femmes kabyes qui se sont mariées avec des moubas.
Oui.
Ils parlent correctement le français avec leurs enfants.
Mm-hmm.
Et ils parlent encore le kabyes avec leurs enfants aussi.
Mm-hmm.
Pour le cas de.
Et le papa, lui, il parle quelle langue à ses enfants?
Le moba est français.
Uh-huh.
Oui.
Donc, les enfants parlent à la fois kabyes, moba et français à la maison.
Vraiment.
Okay.
Moi-même, j'ai marié une femme arago.
Oui.
Et mes enfants, je leur apprends à parler moba.
Uh-huh. Ah, vous êtes moba vous-même?
Oui.
Et vous parlez moba à vos enfants?
Moba.
Et votre épouse parle nago aussi aux enfants?
Non, elle ne parle pas nago.
Elle parle
un peu moba de façon élevée.
Ah, ok.
Elle est en train de s'adapter.
Merci. Merci beaucoup, Mohamed.
Je suis là, je dis que le Togo a permis, bien compris, 40 véhicules de venir s'approvisionner à notre port ici.
Non, nous l'avons dit, le Togo a aménagé un couloir pour l'aide humanitaire à destination du Niger.
Ah, il n'y avait pas compris. Okay.
Merci beaucoup, Mohamed.
Oui, allô, Canal FM.
Oui, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui.
Ah, c'est Apollinaire, ton ami.
Apollinaire.
Oui.
Ah.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Oh, merci beaucoup, c'est bon retour.
Merci beaucoup.
Que Dieu te donne beaucoup la santé.
À nous tous, à nous tous.
Avec beaucoup de choses que tu fais.
À nous tous.
Pour
nous. Merci beaucoup.
J'allais intervenir sur le problème de langue.
Mm-hmm.
C'est une bonne chose. On doit vraiment remercier le gouvernement pour avoir institué la langue anglaise. Moi-même, j'ai fait une série scientifique. J'ai été mathématicien. Enfin, je suis mathématicien.
Mm-hmm.
Mais l'anglais, j'étais très brillant.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup l'anglais.
Non, généralement, ceux qui font la série, sont des petits génies.
Oui, oui, mm-hmm. L'anglais, je parle bien l'anglais aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais à la maison, vous parlez quoi à vos enfants à la maison?
Non, mes enfants parlent anglais aussi.
Il n'y a pas de langue nationale que vous parlez à vos enfants à la maison?
Non, mais bon, comme ma femme est éveillée, on parle l'éveil et le français et l'anglais.
Et vous ne parlez pas Ife à la maison?
Ife, on parle Ife aussi.
D'abord, moi, je vais dire une chose.
Oui.
Vous allez croiser, par exemple, un Ghanéen ou bien un Nigérien dans les rues de Lomé.
Oui.
Il ne bricole même pas le français, mais il se branche en même temps l'anglais. Mm-hmm. Comme si c'était une évidence.
Oui.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
Mais je passe dans les rues de d'Accra ou bien de Lagos et parle le français. On va te quitter. Alors, donc l'anglais, c'est, on n'a qu'à reconnaître que l'anglais domine tout le monde.
Merci beaucoup, Apollinaire. Mais, alors, je fais un constat, hein. Nous avons parlé du problème de parler nos langues à la maison. Alors, ceux qui ont appelé aujourd'hui s'appellent Senghor, Komlan, Johannes, Armand, Jean, Patrick et Apollinaire. Mais c'est le cas de Johannes. Il se faisait le défenseur de parler de nos langues à la maison, mais il ne nous a pas donné son nom dans la langue de notre pays. Il a plutôt dit Johannes. Bon, maintenant, Gadiel, il y a Patrick qui t'a posé une question. Les légumes... à base d'engrais que nous mangeons là.
Il ne faut pas qu'on soit obnubilé par ce fait de pesticides sur les légumes. C'est vrai, c'est une réalité, mais il y a des astuces. On l'a dit ici que on doit plonger les légumes dans une solution d'eau de citron avant de les consommer. Mais sur le marché, il y a des légumes naturels qui existent. On peut les reconnaître aussi. Donc, n'ayons pas peur de consommer les légumes, même si on sait qu'il y a du pesticide qu'on met là-dessus. C'est mieux que rien. Alors, c'est mieux que rien.
De toute façon, les légumes sont quand même verts, non? Vous parlez des légumes verts.
Ouais. C'est mieux que rien. L'organisme, quand même, a cette force d'éliminer un certain nombre de choses. Et puis, avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça peut aller. Donc, n'ayons pas peur de consommer les légumes. Mais faisons quand même, cherchons ce qui est naturel, c'est mieux.
Merci.
Voilà.
Carton
jaune pour c'est pas le service de le service routier, toujours la route de Palimé qui est toujours un mystère. Mmh. Les lampadaires, les feux rouges, on ne sait pas où est-ce que le chantier là est aujourd'hui. Et beaucoup d'accidents, donc on plaide toujours pour que cette route soit illuminée et puis les feux rouges commencent pas à fonctionner
et
réellement.
Puis déjà, les lignes horizontales qui s'effacent déjà.
Voilà.
Quand tu circules, tu ne sais pas dans quel couloir tu es, alors que la route n'est pas encore réceptionnée et les lignes blanches disparaissent déjà.
Tout à fait. Donc,
Fabrice?
Je n'ai pas de carton, mais je vais juste faire un commentaire sur nos noms, et c'est l'autre drame aussi.
Oui.
Et au moins nos noms,
comme toi, pas Tom.
Oui, voilà, quand tu m'appelles comme ça, je suis content. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi. Surtout quand on était encore plus jeune, la gente féminine, quand tu lui dis tu t'appelles Rodavalo, elle dit que ton nom n'est pas romantique. Du coup, les gens se taillent des noms Yves, Sylvestre,
Gadier,
Sylvain Lamour.
Merci beaucoup. Corpus Sylvestre.
Oui, je crois qu'il y a certains auditeurs qui sont revenus sur le prix du ciment. Il faudrait véritablement que la ministre puisse nous situer, parce que ça commence déjà. Moi, je dis que c'est une triche, parce que pour l'instant, officiellement, les prix n'ont pas changé. Mais si certaines sociétés changent leur prix d'elles-mêmes, je dis que nous sommes dans une république et qui est codifiée, il y a des lois qui réglementent cela. Donc vivement que la ministre sorte un document pour nous situer véritablement sur cette situation. Bon, pour le reste, bon, non. Je crois qu'il y a des mains avaient entre-temps changé cela, parce qu'il y avait la tata impérialiste de
Sarakawa.
Mais après, bon, avec la démocratie, le vent de l'Est et tout ça, les gens ont compris que les gens ont pensé que c'est en fait une liberté. Ils ont arraché cela d'il y a des mains. Et puis, bon, les non-français sont revenus. Donc, souffrez que. On garde quand même Innocent comme prénom.
Mais Innocent donc, qui vient.
Il va clôturer d'ailleurs l'émission.
Innocent
parce
d'abord,
que...
mais au début c'est Kodjo Tété. Kodjo, voilà. Pour dire que je suis un garçon né lundi. Tété, je suis premier garçon de l'ethnie Adangbe. Alors Fabrice,
il a voué de Fabrice, il est d'abord Patom. Et puis Roda Ballo, c'est ça?
Mon père ne m'a même pas donné Fabrice. je me suis taillé pour être à la mode à l'époque.
Et ta mère t'appelait comment?
Il m'appelle Patom.
Patom, voilà. Alors, ta mère, c'est Gameli Kokou.
Oui, donc
toi-même, Sylvestre Kokou. Et puis à la technique, c'est Vitor Bekokou avec Jérôme Kodjo. Et ça fait vraiment Togolais.
Ouais.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Le Club La Presse vous retrouve demain jeudi, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille. Mais d'ici là, continuons à célébrer la vie, c'est un bien unique.